faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais laisse-moi chez une gueule d'atmosphère.
Oh là, la musique.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un sport ancestral, une pratique d'escrime avec les pieds et les poings. Un sport né sur l'île d'Okinawa au Japon. Ce soir, c'est donc l'histoire du karaté ou l'art de la maîtrise de soi. Entre le dojo et le tatami, voici la 25e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourris ?
Oui, ça
c'est un excellent
burger. Winter is coming.
Avec la boxe, c'est sans doute le sport qui a le plus nourri l'histoire du cinéma. Karate Kid, Kill Bill, La Fureur de Vaincre, Opération Dragon ou encore Shaolin Soccer, tous les genres se sont emparés du karaté. Mais que savons-nous vraiment de ce sport oriental où les athlètes français excellent depuis 50 ans? Et bien ce soir, pour décortiquer le sport d'Okinawa, ils seront deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, Francis Didier, président de la Fédération Française de Karaté. Il fut également champion d'Europe en 1972 et il connaît bien l'histoire de sa discipline. Et puis à ses côtés, une immense athlète. Elle est triple championne du monde, 7 fois championne d'Europe. Laurence Fischer possède l'un des plus beaux palmarès du sport tricolore et elle nous expliquera tout à l'heure ce qu'est à ses yeux l'esprit du karaté. Mais juste avant les Shaolin, nous accueillerons le moine soldat des actrices, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'affiche ce soir?
La plus belle déclaration d'amour au cinéma face au public des Césars. Annie Girardot.
Magnifique, à tout de suite.
Qui a fait pleurer.
Exactement. Et puis juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Alors, le programme?
Eh bien moi, un nageur oublié, un nouveau sport et un festival sport, littérature et ciné.
Parfait, à tout à l'heure, surtout n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec la Ligue des Champions. C'est du football, car cette semaine, le grand Barcelone est venu défier l'Olympique Lyonnais au Stade des Lumières. C'était mardi soir, pas de but, certes, mais un suspense entier pour le match retour. Ce sera le 13 mars. Voici le flashback.
L'Olympique Lyonnais aime décidément se frotter aux grandes équipes.
En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l'OL a accroché le FC Barcelone 0-0.
Alors moi, il met pas.
Alors certes, Lyon n'a pas marqué, mais pas de but encaissé non plus. Pourtant, dominés après la pause, les Lyonnais ont bénéficié de l'immense maladresse catalane devant les buts. L'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde.
Au début, ils ont eu quelques occasions, mais après, on a contrôlé la situation.
Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
Après, c'est le foot. Parfois, tu tires 25 fois, tu en mets 5. Et puis d'autres, tu n'en mets aucun.
Ah, c'est pas faux.
Après ce match nul, les Lyonnais sont encore dans le coup pour une qualification en quart de finale. Une victoire ne sera d'ailleurs pas nécessaire. Un match nul à Barcelone avec au moins un but marqué suffira. Et puis pour cette deuxième confrontation, l'OL pourra compter sur le retour de son capitaine Nabil Fekir, suspendu hier. Une excellente nouvelle là sur le gardien de but, Anthony Lopez.
Allez-y Moulou, avec la joie.
Bah, c'est vrai que Nabil, il joue énormément entre les lignes. C'est un joueur qui arrive à se retourner, à avoir cette faculté à se retourner facilement et de mettre dans les meilleures dispositions ses coéquipiers en obligeant l'équipe adverse à défendre en reculant.
Je dynamite, je disperse. Je ventile.
Donc c'est vrai que voilà, la Nabil n'était pas là ce soir, on l'aura pour le match retour, en espérant que tout se passe bien et qu'il y ait une belle fête à la fin.
Arrêtez, vous allez nous porter malheur.
Retrouvaille entre Lyonnais et Catalans le 13 mars, donc au Camp Nou.
L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui.
Vous pourriez la noter celle-là, parce qu'elle est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal, je trouve.
Rendez-vous est pris pour le match retour où les Lyonnais pourront donc compter sur l'habile Nabil Fekir. Pour l'heure, voici le coach des actrices, voici le Dominique Besnéard.
C'est fou la vie. Hein.
Ce soir, Dominique, c'est un souvenir impérissable.
Oui. En écho aux Césars qui ont lieu ce vendredi, il nous fallait évoquer une actrice qui a marqué cette cérémonie pas seulement pour avoir obtenu cette statuette à 3 reprises, mais aussi pour avoir fait un discours qui restera dans les annales du 7e art. Ce soir-là, de février 1996, Annie Girardot, ravagée par l'émotion tremblante et vacillante, déclare ainsi, entre 2 sanglots.
Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
Un moment gravé dans toutes les mémoires, Dominique.
Oui.
Née à Paris le 25 octobre 1931 d'une mère sage-femme et d'un père inconnu, Annie Girardot connaît une enfance plutôt difficile à Caen, entre les bombardements de la guerre et les dures privations de l'exode. Pour contenter sa mère, elle prépare sans conviction un diplôme d'infirmière tout en suivant des cours de comédie à côté. Élève du centre de la rue Blanche dès 1949, Annie Girardot se produit parallèlement dans les cabarets de la rive gauche. En juillet 1954, elle sort du Conservatoire National d'Art Dramatique avec la bande florissante de l'époque, Belmondo, Rochefort, Marielle, Fabian. Grâce aux 2 premiers prix qui ont couronné son passage au Conservatoire, elle est engagée peu après à la Comédie-Française. Pendant 2 années, elle interprète le répertoire, surtout des soubrettes. Cocteau l'impose dans La machine à écrire et voit en elle le plus beau tempérament dramatique de l'après-guerre.
Et elle fait ses débuts au cinéma dans 13 à table.
Aux côtés de Micheline Prel, on les retrouve.
Hein. Et oui.
Puis son premier grand rôle dans L'homme aux clés d'or, qui lui vaut le prix Suzanne Bianchetti en 1956. 2 ans plus tard, elle fait la rencontre déterminante de Luchino Visconti. Celui-ci la dirige au théâtre dans 2 sur la balançoire, aux côtés de Jean Marais, puis lui fait tourner Rocco et ses frères face au bel Alain Delon. Annie épouse son partenaire Renato Salvatori et se tourne alors vers les productions italiennes. Mais c'est pourtant à un réalisateur français, Marcel Carné, qu'elle doit son prix d'interprétation à Venise pour 3 chambres à Manhattan, d'après Simenon. Au milieu des années 60, après une boulimie de tournages français et italiens, de grands films et de productions médiocres, Annie Girardot est brusquement oubliée des écrans de cinéma.
Et Dominique, c'est Claude Lelouch qui relance sa carrière.
En lui proposant d'incarner la femme d'Yves Montand dans Vivre pour vivre. Le film est un succès et le public découvre une nouvelle facette du talent d'Annie Girardot, l'émotion. À partir de ces années-là, et pendant une décennie, elle est la star la plus populaire des années 70. Elle alterne avec grâce films d'auteur et cinéma populaire. Elle brille sous la direction de Michel Audiard, vers qui elle revient régulièrement pour se ressourcer. Ou encore dans Mourir d'aimer, le film d'André Cayatte sur l'affaire Gabriel Russier, qui réunit 6 millions de spectateurs.
Oui, 6 millions de spectateurs, c'est incroyable. Annie Girardot, Dominique, c'est être aussi Madame Tout-le-Monde.
Oui, une vedette proche des gens plutôt qu'une star. Elle endosse avec naturel des personnages nouveaux et en tempère l'audace par la connivence qu'elle entretient avec le public. Lors de ses dernières années au théâtre et au cinéma, Annie joue avec une oreillette destinée à lui souffler son texte. La maladie d'Alzheimer dont elle souffre n'est révélée au grand jour qu'en 2006. Lorsqu'Annie Girardot tire sa révérence le 28 février 2011, Daniel Eman, la critique, écrit très justement: elle était solide et lézardée, bosseuse, gouailleuse, jolie bouche, joli corps, voix de brume rappeuse, parlant vite dans une fringale de vérité urgente à délivrer, accessible et unique.
Eh bien voici Annie Girardot qui nous parle de ses professeurs au conservatoire.
J'ai eu aussi Georges Leroy qui me disait toujours: Annie, l'étonnement, n'oublie jamais ça. Tant que tu seras étonnée, et c'est vrai, il faut... même être étonné des saloperies, il faut être étonné, il faut en prendre plein la gueule, mais il faut avoir l'étonnement. Voilà, c'est non seulement que tu as l'enfance, mais c'est que tu as tout, tu possèdes tout. À partir du moment où tu peux t'étonner d'une merveille, ou même t'étonner qu'on puisse aller aussi loin dans l'horreur. Voilà, c'est ça l'étonnement. Mais ça, c'est, j'ai eu 2 professeurs assez formidables.
Étonnement, l'étonnante Annie Girardot, une actrice incroyable, Dominique.
Et quand on réécoute sa déclaration des Césars, franchement, on a... Je, il y avait les larmes et moi j'avais les larmes.
Et oui, c'est vrai que ça reste poignant au cœur, même 25 ans plus tard. C'est incroyable. Merci beaucoup Dominique Besnard. À la semaine prochaine. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Il y a très longtemps, disons au 6e siècle de notre ère, un moine bouddhiste, originaire d'Inde, entreprend un long voyage en Asie. Il s'appelle Bodhidharma et son expédition solitaire finit par arriver jusqu'en Chine. Là, entre mythe et réalité, la légende chinoise raconte qu'il s'installe dans le monastère de la Petite Forêt, qui se dit Shaolin en chinois. Un monastère où il va enseigner à ses nouveaux disciples, les moines Shaolin, un art martial de l'autodéfense, lointain ancêtre de la boxe chinoise et du karaté. Et c'est ainsi qu'après des siècles de maturation et d'influence japonaise, ce sport de combat, le karaté, finit par arriver en Europe et en France, juste après la Seconde Guerre mondiale.
Le karaté, exporté par le Japon après avoir été adopté par la police locale, a fait son apparition en France en 1948 et n'a pas cessé depuis de se développer. Comme le chevalier du Moyen-Âge, le karatéiste dispose d'une armure. Mentonnière de métal, bustier de bambou et de cuir. Tous accessoires dont l'utilité n'échappera à personne après un bref aperçu sur les quelques exercices précédant un combat et qui sont une simple mise en trainte. Après quoi, le karatéiste doit briser d'un seul coup 10 cm de planche et utiliser la main comme le pied. Enfin, 9 carreaux de faïence ne doivent pas l'intimider.
Briser 9 carreaux de faïence à main nue ne doivent pas intimider. En effet, le karatéka Francis Didier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la Fédération Française de Karaté. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu du folklore, hein, Francis. C'était une époque, on va dire, pour
le
karaté.
Oui, c'était une époque. C'était des démonstrations pour casser des planches ou des briques qui étaient préparées d'avance. Ça faisait partie, comme vous l'avez dit, c'est mythe et réalité. Franchement, c'était du mythe, quoi.
Ah oui, absolument. Voilà.
600 clubs, 50 000 licenciés, plus de 100 000 pratiquants, 20 000 de plus chaque année, champion du monde par équipe, le karaté français se porte bien. Les raisons de ce succès, le karaté est un sport impressionnant, spectaculaire, avec des mots au contenu mystérieux comme Mawashigeri ou Yokogeri.
Alors revenons un petit peu à aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez résumer ce soir en ouverture de notre discussion, en quelques mots pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir sur Inter, c'est quoi l'esprit de ce sport que vous présidez en France? C'est quoi le karaté, Francis Didier?
Alors qu'est-ce que c'est le karaté au niveau visuel aujourd'hui dans la compétition? On peut dire que c'est une escrime pied-point, qui a été donc inventé par les Japonais dans le mode de compétition dans les années 1950. Ils ont pris comme modèle le kendo, le yai, c'est-à-dire le sabre. Mais il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs styles en karaté. Il y en a 32. Donc il y a des styles qui font des combats self-défense très rapprochés, d'autres qui sont plus mystiques, philosophiques, qui travaillent plus l'esprit. Quoi qu'il en soit, en niveau de distance, celui qui est de compétition de longue distance et celui qui est pratique dans les clubs et de courte distance.
D'accord. Laurence Fischer, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors vous êtes, vous, triple championne du monde de karaté, 7 fois championne d'Europe, ça pose un palmarès quand même. là, pareil pour nos auditeurs ce soir, comment est-ce que vous, la grande championne, vous pourriez résumer l'esprit de votre sport? C'est quoi le karaté pour Laurence Fischer?
Ah, c'est un état d'esprit. C'est vrai qu'on se respecte énormément. Le chaos n'est pas autorisé, donc il faut se maîtriser. Il y a la maîtrise de soi, de ses émotions. Et je crois que déjà, rien que ça, c'est beaucoup dans l'approche sportive.
En compétition, les karatékas se battent durant 1 minute et la victoire revient à celui qui aura marqué 1 point. L'unité peut être atteinte par un coup décisif porté à un endroit vital ou par 2 demi-points pour coups de moindre importance. Mais en aucun cas, les coups portés ne doivent toucher l'adversaire. Ils doivent être contrôlés et arrêtés à quelques centimètres de l'endroit à atteindre. Cette règle est le principe même de cet art martial qui exige le contrôle total du geste.
Francis Didier, il y a un homme important au XXe siècle pour le karaté. Il s'appelle, je crois qu'on dit Gichin Funakoshi, c'est bien ça, je dis pas de
Funakoshi,
bêtises.
Oui.
Voilà, il est originaire
Gichin,
de
Funakoshi, oui.
Pardon. Il est originaire d'Okinawa, c'est bien ça.
Oui,
qui est ce monsieur? En fait, c'est un peu l'inventeur du karaté moderne, on va dire, c'est ça.
Ouais, c'est un calligraphe. Vous fabriquez avec les mots une image dans la tête de l'autre personne qui est en face de vous. La calligraphie, un coup de pinceau et vous avez le mouvement, vous avez tout dedans. Il a donné son nom à une méthode de karaté qui s'appelle le Shotokan. Et il a donné ce nom-là à sa méthode de karaté qui ne vient pas de lui, et puisque ça vient d'Okinawa où il y avait deux villes, Na et Shuri. Donc Funakoshi, lui, est monté au Japon parce que Tokyo, Okinawa, donc il faut à peu près 2h45 d'avion, vous voyez. Et en face, vous avez 1h10 pour aller sur Shanghai ou sur la Chine.
En Chine.
Mmh. Voilà. Donc, en fin de compte, au 13e siècle, c'était un porte-avions en pleine mer de Chine qui servait pour le Japon et la Chine.
C'est pour ça qu'on peut dire que le karaté est à la fois un sport évidemment japonais, mais sous influence chinoise.
Sous
quand
influence
même.
Chinoise. Mmh.
C'est un sport un peu mélangé, en fait.
Ouais, hein, c'est mélangé. Mmh. Alors, Funakoshi, lui, est monté sur le Japon parce que c'était un prof d'université. Il n'est pas monté du tout pour le karaté. Et il a fait une rencontre extraordinaire avec Jigoro Kano, qui était fondateur du judo. Et donc, c'est une rencontre d'intellectuels.
Maître Mochizuki interprète une chanson du dernier-né des arts martiaux, le karaté. Elle a pour but de faire travailler les muscles respiratoires et cardiaques et provoquer une oxygénation complète des poumons.
Ce soir, peut-être que les gens qui nous écoutent sur Inter, Laurence, ils savent pas trop la différence entre le judo et le karaté. Vous voyez, parce que c'est des arts martiaux, ça vient du Japon. Est-ce qu'on pourrait vite fait, en quelques mots, différencier ces deux sports qui sont très différents, au final?
Absolument. C'est vrai qu'on est cousins, mais dans la pratique, le judo, on a la distance très courte, d'ailleurs. Mm-hmm. Et l'objectif, c'est de déséquilibrer.
Quand on dit distance très courte,
on est très près de l'adversaire
ou de les partenaires. Voilà. Donc, et au judo, on est très près.
Voilà, parce qu'on saisit le kimono de son partenaire, et l'objectif, c'est le déséquilibrer, de le mettre au sol pendant un certain temps. Nous, en karaté, on peut saisir de manière très 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 brève, on est dans la percussion. Donc on donne des coups de poing, des coups de pied, des projections potentiellement, mais on a une distance avec son partenaire, en fait. Je pense que c'est vraiment la différence majeure, même si parfois on peut faire des petits dashibarai, des petits déséquilibres.
Alors une question pour vous deux, parce qu'en préparant cette émission, j'ai aperçu quand même que, notamment, ce Funakoshi portait aussi une philosophie de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, les karatékas, qui sont des grands champions dans les clubs en France, est-ce qu'on a aussi dans un véhicule de manière au monde, d'être au monde? Est-ce que c'est important, ça, dans les clubs de karaté aujourd'hui?
Oui, c'est les valeurs. Alors, les valeurs ne viennent pas d'un texte de Funakoshi, ils viennent d'un texte d'un monsieur qui s'appelait Inazo Nitobe, qui n'a rien à voir avec les arts martiaux, ni avec le karaté, ni avec le judo, ni avec aucun sport de combat. Donc c'était un prof en agriculture. Et lui, il était Shinto. Et il a écrit un livre avec sa femme, Madame Ellington, qui s'appelle Bushido, l'âme du Japon. Ça veut dire le chemin du chevalier qui se protège. Le cavalier qui se protège lui-même. Et il a décrit son livre sur 7 vertus qu'il a développées, donc le contrôle de soi, la véracité, l'honneur. Et ce livre est devenu un best-seller aux États-Unis, supporté par Roosevelt, qui l'a imprégné au Sénat. Ce livre a disparu après Pearl Harbor, et il est revenu en 1954 en France. Et c'est Monsieur Jazarin, qui avait le Collège des Ceintures Noires de Judo, qui s'est imprégné de ce texte pour en faire les 7 valeurs du judoka. Et nous, on a fait exactement la même chose, on a copié dessus, puisqu'on était dans la fédération de judo avant. Hein. Et puis, comme le disait Laurence, on est cousins, on est des frères plutôt, voilà. Et donc, c'est cette valeur, c'est notre voix. Mais quand c'est arrivé en France, tout le monde a dit, c'est des arts de guerre. Alors, art de guerre, Mars, la rouge,
art martial. Mmh.
Donc l'art martial. Mmh.
Mais en fait, en fait, c'est un art de la protection.
Voilà, on pratique dans un espace qui est la maison de la voix.
Laurence Fischer, est-ce que ces valeurs, vous y êtes sensible? Est-ce que tout au long de votre apprentissage, jusqu'à championne du monde de karaté, est-ce que ça vous porte, ces valeurs? Elles sont importantes pour vous, cet enseignement quasiment philosophique?
Oui, absolument, ça m'a porté, ça m'a construite, ça fait la femme que je suis aujourd'hui. Après, bon, je n'ai pas cette culture et l'histoire, mais d'une certaine manière, je me la suis appropriée à travers la transmission. Je pense que c'est un point très important dans les dojos et dans les lieux. Cette forme de sincérité, d'être soi-même sur le tatami et d'être dans un instant de vérité. Je pense qu'aussi, il y a une prise de risque, il y a du danger et ça ramène à notre nature humaine aussi. Je l'ai conçu comme ça aussi, l'approche intense et extraordinaire que peut être le très haut niveau et un championnat du monde qui, par exemple, n'a lieu que tous les 2 ans.
J'ai lu que au karaté, chaque combat commence et s'achève par le rei, c'est ça? R-E-I, c'est ça? Le rei?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est le rei, en fait?
On prononce lei.
Lei. Et c'est quoi le lei?
On dirait,
c'est un salut?
Oui, c'est un salut qui... Nous aussi, on avait ces coutumes-là, on les a oubliées un petit peu. Hein. Quand je vous serre la main, je vous regarde dans les yeux, ça veut dire je viens vers vous sans armes. Bon, ben, maintenant, on serre, puis on tourne tout de suite la tête.
On n'est pas. On se fait des bises.
Ouais. ça n'a plus rien à voir avec les coutumes. Avant, on se serrait la main par l'avant-bras.
Oui, on se tenait l'avant-bras.
Hein. L'avant-bras. Ça veut dire que je raccourcis la distance et je mets ma vie en danger parce que avec une dague, vous pouvez me percer. Donc ça, c'était des saluts de politesse. Donc eux, les Japonais, ils baissent la tête. Et en fonction dont on baisse la tête et qu'on courbe le dos, c'est une façon de dire « je mets toute ma vie entre vos mains » puisque c'est la règle du sabre. Donc je peux dégainer et couper. Donc c'est toujours à distance. Donc contrairement à nous, où on est au Moyen-Âge en courte distance, eux, ils sont en longue distance parce que c'est la distance du sabre,
évidemment. Voilà. Alors, autre aspect du karaté français, j'ai regardé les palmarès, nous sommes une très très grande nation du karaté. Nous avons des titres mondiaux, nous avons une triple champion du monde à la table. Mais depuis 50 ans, on est très très fort en France au karaté. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on est aussi fort au karaté en France?
Le français aime bien les sports de combat. Mais pas le sport de combat dans la brutalité, c'est le sport de combat en se mesurant l'un à l'autre. Et puis le karaté est venu très très tôt en France, et on a quelque chose de commun avec les Japonais, c'est notre façon d'aimer la chevalerie. Donc eux, ils ont le samouraï, nous on a nos chevaliers, donc ça s'est bien marié dans le...
Mais c'est ancestral.
Ouais, et la France a toujours été dans le podium de tête, quoi.
Absolument. On va continuer à parler de karaté, évidemment, ce soir sur Inter, mais pour l'instant, c'est l'heure de l'orchestre, emmené ce soir par Beat Assailant, un comeback du gamin de Floride, devenu depuis quadragénaire, c'est la vie. Le titre joué aujourd'hui, Bad Boy, ainsi soit-il.
Now they're saying, girl is no good. Always end up misunderstood. Girl, it's alright. What you know, what you know, what you know about me. It's no lie, I'm alright for you. They don't know, they don't know, they don't know about me. I won't lie, I would die for you. But she's telling me now, this could be the last time. That's exclusive, so don't fall in love, fall in love. Straighten it out, don't need no hot comb. Baby, relax, you know they did wrong. Girl, in my mind, the only one is you. I can't lie, I got eyes for you. Ain't no thing that I won't do. Ain't no space, then I make room. From the ride to the bedroom, put it in my next tune. And I never spit a word on your ex, dude. I don't ever wanna be rude, but I'm feeling things coming unglued. Tell me one time what's deep in your mind. We can make it alright. But she's telling me now, this could be the last time. That's exclusive, so don't fall in love. Thank you.
du tigre.
Si les karatékas français, les hommes, sont les meilleurs du monde, les femmes étaient jusqu'à présent un ton en dessous. Jusqu'à cette nuit du 12 octobre 2000, où quatre jeunes filles vont renverser le cours de l'histoire.
Philippe Collin.
Nathalie Leroy, Laurence Fischer, Nadia Mechri, Patricia Chéreau. Jamais ces quatre jeunes filles, pourtant titrées en individuel, n'ont réussi à s'imposer par équipe. Et cette année, a priori, leur parcours est très difficile. Pays-Bas, Yougoslavie, Japon, avant de retrouver en finale l'Espagne. Une finale parfaitement maîtrisée par l'équipe de France, à l'image de Laurence Fischer, qui surclasse nettement son adversaire. L'équipe de France féminine est pour la première fois championne du monde.
Sur France Inter. Une équipe féminine française de karaté championne du monde, c'était en 2000. Une équipe emmenée par une Laurence Fischer, triple championne du monde individuelle. Une athlète qui aujourd'hui participe de temps en temps aux conférences TEDx pour partager son expérience. Et parfois, face à son auditoire, Laurence Fischer donne les ingrédients de son succès. Alors, quelle serait la recette pour décrocher un tel palmarès?
Ce serait 600 combats, 8000 heures d'entraînement, 16000 heures de karaté, 600 000 coups de pied, 550 000 coups de poing, 11 protège-dents perdus, 40 kimonos, 60 paires de baskets, 50 survêtements, 2 tonnes de sucre lent. C'était aussi 6 points de suture, 200 hématomes. Et aussi, le karaté étant une jeune discipline olympique, mais aussi une discipline amateur, donc c'est la précarité. J'ai dû travailler à temps partiel pour subvenir à mes besoins. Tout ça pour 120 secondes de combat. Plutôt contraignant, non ?
Un peu contraignant, oui, en effet. Laurence Fischer, on sent hein, le poids des sacrifices hein, pour devenir championne du monde de karaté. Mais si,
pas juste, de sacrifices, mais quand des même, choix
est-ce
seulement.
Que, oui, des choix, c'est important de, oui. d'apporter la nuance. Mais néanmoins, est-ce que c'était à refaire, vous referiez la même chose ou pas ?
Si c'était à refaire, je le referais quand même parce que du coup, je trouve que c'est drôlement équilibrant à la fois de poursuivre une carrière de très haut niveau, d'avoir à se nourrir l'esprit et de faire des études en parallèle. Il manquerait le volet économique, évidemment, parce que c'est beaucoup d'heures de travail, enfin de passer sur les tatamis. Mais finalement, je me suis bien retrouvée parce que ça ne dure qu'un temps. Donc c'est...
Vous êtes née en 73, si je ne dis pas oui. de bêtises. Comment est-ce qu'on devient championne du monde de karaté? Quand on a, on va dire, 12-13 ans dans les années 80. C'est-à-dire, comment vous êtes arrivé au karaté? C'est quoi votre chemin pour arriver jusqu'à ce sport un peu particulier? En plus, alors on va dire pour une femme comme un clicheton, mais c'est quand même un sport de contact et assez violent. Donc, comment on arrive au karaté?
C'est vrai qu'à l'époque, il pouvait y avoir facilement des nez cassés, des mâchoires fracturées. C'était un peu... Il n'y avait pas de protection. Pour beaucoup de femmes, c'était assez compliqué. Et dans la considération aussi de se dire, mais non, ce n'est pas une discipline faite pour les femmes. Et quand ma première, j'avais commencé à l'âge de 6 ans et je trouvais ça effectivement dans la pédagogie, dans l'approche très très dure. Et c'est mon père, qui, parce que je l'aime toujours, mon père, je l'ai suivi au dojo.
D'accord.
Et sinon, je pense que je serais restée à danser sous les bignous provençaux parce que je trouvais ça assez, assez difficile.
Francis Didi, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française de karaté. Vous avez été aussi karatéka vous-même. Vous avez un titre, je crois, champion d'Europe 72, si je dis pas de bêtises. Comment vous êtes venu, vous, au karaté? Comment le karaté est entré dans votre vie, à vous, Francis Didier?
Ah, je cherchais à faire un sport de combat, j'avais 14 ans, et puis c'était un copain qui m'a dit karaté, mais à cette époque-là, je savais même pas ce que c'était. Donc je suis allé voir un cours de karaté, et je dis à mon père, ah, bah, j'ai envie de faire du karaté, je vais m'inscrire. Et donc j'ai fait mon premier cours, et à la fin du cours, après, j'étais voir le prof, et je dis, mais quand est-ce qu'on met un pantalon noir? En fin de compte, j'avais vu un cours d'aïkido et je me suis inscrit pour un cours de karaté. Alors j'ai commencé complètement par hasard et 3 mois après, il y avait un club qui se montait à Saint-Gratien. Et donc, j'ai vraiment commencé là.
Et finalement, une des voies d'accès du karaté aussi a été le cinéma. Est-ce que c'est des choses qui vont porter dans votre vie à l'un et à l'autre ou vous avez toujours trouvé ça un peu ridicule, ce cinéma karaté?
Vous parlez, c'est les films chinois,
oui.
En fait, de Bruce Lee.
Mm-hmm. Par exemple,
si vous regardez tous ces films, il était habillé en noir, donc la tenue chinoise, et puis les karatékas en blanc, et puis en fin de compte, il rentrait dans les écoles, puis il tapait sur tous les Japonais ou tous ceux qui étaient en blanc pour gagner. Et le message, il est passé complètement à l'envers, parce que normalement, ça devrait être le kung-fu qui devait passer devant le karaté, puisque lui, c'est ce qu'il prônait comme méthode. Et le public a dit, c'est du karaté chinois. Donc, comme il y avait le mot karaté qui était en avant, bah, tout le monde allait dans les clubs de karaté, croyant faire ce que faisait Bruce Lee. Donc, c'est un message médiatique qui est passé complètement à l'envers.
C'est un peu foireux, finalement.
C'est un peu finalement. Mais bon, nous, ça nous faisait un peu rire à l'époque. Ça retraçait pas du tout la réalité. Mais bon, pour le grand public, ça laissait quand même un message. Puis il y a eu les films de kung-fu de sagesse, hein, qui ont été porteurs aussi. Des films de karaté, c'était plutôt dans les James Bond qu'on parlait de ça. Mais ça a influencé, effectivement, l'inscription dans les clubs. À cette époque-là, dans les années 70, ça a été... D'ailleurs, la fédération de karaté a grandi grâce à ça.
Laurence Fischer.
Moi, je dirais que je suis plus la génération Karate Kid.
Voilà.
Et en fait, je m'identifiais pas trop. Le mec, il lève la jambe, et puis, il a mal à la jambe, il reprend appui dessus. Mais en fait, il a mal à cette jambe, il arrive à prendre appui dessus. J'y ai pas cru. Et puis, moi, je serais plutôt Maître Yoda le côté.
Pas Kill Bill, par exemple.
Kill Bill, en fait, je suis assez fan. Mais pour moi, c'est Tarantino. Donc, c'est une espèce de, les jets de sang, tout ça.
Oui.
C'est la touche Tarantino que j'adore.
Bien sûr.
Et par rapport à Bruce Lee, il y a eu aussi Jean-Claude Van Damme. Donc Jean-Claude Van Damme, techniquement, je dis ah non, jamais de la vie. Alors que Bruce Lee, je trouvais le coup de pied circulaire, ça se rapprochait, je trouvais plus techniquement de ce qu'on faisait.
Maître, comment trouve-t-on la force à l'intérieur de soi-même?
En ne faisant qu'un avec tout ce qui est en dehors de nous.
Parfois, il y a des choses qui entrent en lutte.
Quand le feu se mêle à la glace, qui est-ce qui gagne?
La glace.
Oui, mais en mourant, est-ce que la glace ne devient pas de l'eau qui meurt à son tour?
Est-ce que le feu mourrait?
Celui qui l'emporte, c'est celui qui refuse de connaître la puissance de l'autre. Où il y a la peur, n'y a-t-il pas danger? Et où il n'y a pas la peur, le danger existe-t-il encore? Quand le tigre et l'homme sont deux êtres différents, l'homme est en danger. Quand le tigre et l'homme ne font qu'un, il n'y a pas de peur. Donc pas de danger. Quelle est la créature qui, ne faisant qu'un avec la nature, s'attaquerait à elle-même?
Laurence Fischer, vous avez arrêté votre carrière en 2006 et depuis vous êtes reconverti dans des choses très intéressantes. Vous êtes diplômé de l'ESSEC aussi, il faut le dire, mais vous êtes reconverti dans ce qu'on peut appeler l'éducation par le sport, et notamment en prenant soin du corps des femmes qui ont été abîmées par des violences sexuelles. Vous avez notamment entrepris un premier voyage au Congo, je crois, si j'ai pas de bêtises. Racontez-nous un peu ce voyage au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo pour vous, Laurence Fischer?
C'était en fait, il y a eu une première rencontre, j'étais encore athlète en Afghanistan, des jeunes femmes afghanes avec l'association Plein International, dont j'étais ambassadrice. Ça a été un premier déclic. Et puis, j'ai rencontré le docteur Mukwege à l'occasion d'une conférence qu'il avait donnée lors du Forum mondial des femmes francophones au Quai Branly. Et là, ça a été un choc parce que il est gynécologue. Je suis très fière parce que je travaille à ses côtés et ses équipes, et il est donc prix Nobel de la paix depuis octobre dernier. Et il est gynécologue obstétricien. Son travail auprès des femmes victimes de viols utilisées comme arme de guerre. Je ne savais pas que le viol pouvait être utilisé comme arme de guerre. Donc c'était un premier choc. Et il se trouve que j'avais eu des connexions par ailleurs, parce que j'étais allée au Burundi quelques années, un ou deux ans avant. Et je me suis rendue à la fondation Panzi, à la maison d'Orcas, et j'ai vu le travail qu'il a fait en accompagnement, ce qui était vraiment innovant, d'accompagner de manière globale la femme en post-opération. Les jeunes femmes, elles ont entre 13 et 15 ans. Et ça a été à la fois un choc de rencontrer ces jeunes femmes et trouver à quel point elles étaient résilientes post-trauma. Et puis de me dire aussi que mince, comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors que le traumatisme est arrivé à un moment donné par le corps, que rien ne soit très concrètement et très de manière accessible et adaptée, proposé à ces femmes vulnérables et traumatisées, rien ne soit proposé par le corps? C'était une vraie question pour moi, et je me suis dit, mais sachant qu'au bout de 3 ans, je vais mettre en place un programme spécifique à ces femmes, avec une pratique hebdomadaire.
De karaté. C'est là que vous avez fait réinsérer le karaté dans cette pratique. Alors expliquez-nous ça un peu.
C'est très simple. J'ai formé Franck Kwabe, qui donne les cours donc depuis toujours maintenant là-bas. Elles font des coups de poing, elles font des coups de pied, elles font ce qu'on fait nous de manière, ce sont les fondamentaux qu'on apprend. Elles les font avec, mais on les amène avec une, on travaille travaille beaucoup sur la respiration, la décontraction, on travaille beaucoup sur les muscles périnéaux, parce que tout est arrivé par là, malheureusement. Et c'est une manière, à travers la pratique du karaté, de leur permettre de se réapproprier ce corps meurtri, qui est, où il y a un déni, où elles ne l'acceptent plus, parce que c'est une source de souffrance. Et en même temps, de ce fait, de les reconnecter à leur mental, qui est vraiment dans un état... Donc c'est très simple ce qu'on fait.
Et donc à la Maison des Femmes à Saint-Denis, par exemple, beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles viennent faire du karaté pour se réapproprier un corps abîmé, finalement.
Exactement. En fait, le Congo, ça a duré, ça a commencé en 2014, et j'ai eu un retour extrêmement positif des jeunes femmes. Et je me suis dit, mais... Et je suis arrivée en France, j'expliquais ce que je faisais, et on m'a dit, Laurence Rossignol m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça ici aussi? Mais je pensais qu'il y avait, avec le tissu associatif, je pensais qu'il y avait des choses qui étaient faites déjà. Et malheureusement, pas assez. Et donc, j'ai rencontré le docteur Ada Atem, qui a fait sortir de terre en 2016 la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui fait pareil un accompagnement global des femmes. La femme vient, elle a accès au docteur, au psychologue, à la conseillère conjugale, à l'avocat, etc. Et moi, j'ai dit, OK, dans ce contexte-là, extrêmement bienveillant, sécurisé avec ses experts, je fais aussi rentrer le karaté. Et ça marche. Et ça marche. On a mis ça en place depuis mars 2018. Et on a même mis en place une recherche-action qui va démarrer là tout de suite pour mesurer l'impact de la pratique, mettre en place une méthodologie. Et avec la Fédération Française de Karaté, donc Francisier, qui nous soutient depuis le début, on va faire de la formation de formatrice. On va permettre de rendre cette pratique accessible à beaucoup de femmes sur le territoire.
Francis, il dit un mot sur cette initiative?
Oui, je pense que son travail, c'est enlever la peur. Alors je pourrais donner une image concrète d'enlever la peur. Par exemple, vous vous mettez à 6 mètres, j'ai une balle de tennis et je vous tire dessus. J'ai pas grand chance de vous atteindre parce que vous allez bouger, vous allez éviter la balle. Maintenant, je remplace la balle de tennis par un silex et là, vous prenez peur et là, j'ai toutes mes chances de vous atteindre. Parce que en fait, c'est vous qui vous empoisonnez vous-même par la peur. Parce que c'est le cervelet qui fabrique de l'acide. Et il se dilue dans l'estomac, il vous empoisonne le bas, et à ce moment-là, votre esprit, il est plus vigilant, il est complètement figé par cet espace. Donc, dans le karaté, il y a cette possibilité, par la voie zen aussi, hein, de la méditation, de pratiquer ça à la fois d'une façon physique, mais aussi dans une méditation qui vous enlève un petit peu cette peur. En fait, la peur, c'est quelque chose qui est en nous, et que nous fabriquons.
Et en même temps, l'idée de méditation, ça fait partie du programme. C'est-à-dire qu'il y a en dernière phase, et tout ce qu'on fait sur la dernière phase, il y a cette partie de respiration, le zen, c'est essayer de ne plus penser. Et c'est vrai que ça participe beaucoup à un mieux-être de ces femmes. Et c'est vrai que la peur les habite parce que pour certaines femmes qui sont encore sous l'emprise du conjoint qui les bat, elle est permanente. Et puis, ce qu'on analyse aussi sur l'état de stress post-traumatique, justement, c'est qu'il y a des conséquences des violences qui font qu'elles ont des flashbacks, elles ont des réminiscences, enfin, il y a des conduites qui sont en conséquence. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les atténuer, effectivement, d'inverser le processus, où elles vont essayer de se décharger de tout ce qui est négatif à travers donner un coup de poing, pousser un cri, donc faire le ki-ai, enchaîner ses techniques, être face à l'autre et ne plus avoir, en tout cas, moins d'appréhension. Enfin, c'est tout ça qu'on met en place et que ce soit plus efficace au moment où ce moment qu'elle s'accorde à vouloir aller mieux.
Francis Didi, vous êtes aussi l'artisan d'un autre combat qui est celui de promouvoir le karaté aux Jeux Olympiques. Alors en 2020 à Tokyo, l'an prochain ce sera un sport additionnel, hein, comme on dit, mais ouais. Ça y est, le karaté va rentrer aux Jeux Olympiques à Tokyo. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps? Est-ce qu'il y a un petit mépris à l'égard du karaté? Pourquoi ce sport n'est pas olympique depuis 70 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire, Francis Didi?
Pour moi, c'est 25 ans de combat, dans combat digne, hein, dans cette position pour avoir amené le karaté au jeu. Alors il faut regarder la vitesse du CIO. Hein. Je vais vous donner un exemple pour le judo. En 1964, c'est les Jeux de Tokyo et en mémoire de Jigoro Kano, le judo est en démonstration 1964. En 68, il y a rien et en 72, il rentre dans le programme définitif. Donc ça a été 8 ans entre les deux blocs. Le taekwondo est rentré en 88, je crois, 88, 12 et 96. Donc on voit exactement le même espace. Le karaté est rentré donc en sport additionnel pour 2020. Mais en fait, on l'a voté en 2016. Il va y avoir 2024 où j'espère on sera dans l'additionnel. Et on peut voir que c'est aussi un temps de 8 ans. Mais il faut être patient. Moi, j'ai imagé ça avec une porte de verre. Une fois, on me la rouvrait, on me la refermait, on me l'ouvrait, on fermait. Alors, il faut jamais abandonner. Il faut toujours remettre le travail à l'ouvrage. Quoi.
Le serpent nous fait découvrir souplesse, endurance et rythme. La menthe religieuse nous fait acquérir vivacité et patience. Le tigre nous montre ce qu'est la ténacité et la puissance.
En tout cas, en 2020 à Tokyo, le karaté sera représenté aux Jeux Olympiques.
Et on est au Budokan. Budokan, c'est la maison de Budo.
L'art de la protection.
L'art de la protection. Donc, on est le judo et le karaté au Budokan.
D'accord. Juste pour terminer, une question à vous deux rapide. Je crois que Funakoshi disait que la voie du karaté est sans fin. C'est-à-dire qu'on apprend jusqu'au bout. C'est une pratique qui va même loin dans l'âge. Est-ce que l'un et l'autre, vous pratiquez le karaté toujours aujourd'hui ou pas? Francis Didier.
Alors moi, c'est difficile maintenant, oui.
Mais il faut suivre les préceptes d'un maître, hein. Il faut faire le...
Non, je raconte son histoire.
Oui, mais...
C'est
mais...
pas mal.
Oui, mais vous pratiquez plus, en fait.
Non, je passe mon temps dans la fédération, derrière le bureau.
Et il faut que vous retourniez au karaté, c'est important, c'est important. C'est aussi...
Mais je suis un compteur.
Oui, vous êtes un compteur, mais il faut quand même retourner sur le tatami un peu, je crois. Hein.
Je vais aller m'inscrire dans un club.
Laurence Fischer.
Non, il est vrai, je suis encore dans la transmission, c'est une bonne question. Comment arriver à continuer à se nourrir et à sentir qu'on progresse, sachant que effectivement c'est une voie qui est...
Sans fin.
Donc,
et oui, on apprend tout le
mais
temps.
En fait, je pense aussi que moi, ce que j'ai retenu, c'est l'ouverture d'esprit, s'ouvrir à tout et s'ouvrir à soi-même. Et ben du coup, je continue ma recherche, mais en dansant le tango, en faisant du théâtre et surtout en allant vers les autres. Et j'apprends beaucoup des femmes à qui je transmets. Et j'apprends beaucoup de ces femmes vulnérables. Oui.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir pour évoquer le karaté et ce sport de combat ancestral qui sera donc aux Jeux Olympiques à Tokyo l'an prochain. Merci à vous deux. Et ne quittez pas l'écoute car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Eh bien on commence avec une nouvelle qui me réjouit. Un hommage à Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz. Alors pourquoi? Parce qu'on vient d'apprendre qu'au mois de mai, le nageur français fera son entrée au Swimming Hall of Fame de Fort Lauderdale, ce qui est donc le panthéon de la natation en Floride. Et il était temps. Parce que Nakache fait partie de ces immenses sportifs trop longtemps oubliés par l'histoire. Alfred Nakache est né dans une famille juive, en Algérie, en 1915. Il arrive à Paris à 18 ans. Et le gamin qui n'aimait pas l'eau, se révèle être un excellent nageur. Il devient ensuite professeur d'éducation physique et en même temps, il finit quatrième du relais nage libre aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Mais tout ça, c'était avant. Avant 1940 et que le régime de Vichy ne prive Alfred Nakache de sa nationalité française et le force donc à fuir en zone libre, où il entraînera alors les réseaux de résistance juifs. Donc dénoncé et déporté à Auschwitz en 1943, d'où sa femme et sa fille ne reviendront malheureusement pas, Artem, comme on l'appelait, réussira pourtant l'exploit de retrouver le plus haut niveau sportif et de participer aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Au final, le nageur d'Auschwitz aura un palmarès hallucinant. 15 titres de champion de France, 2 records du monde, 3 d'Europe, 9 de France. Voilà, c'est un athlète polyvalent, alors soulignons qu'il s'était mis à la brasse papillon et au water polo aussi. Voilà. Alfred Nakache était surtout un homme exceptionnel, décédé en 1983, un homme qu'il était grand temps d'honorer.
Et ce sera bientôt fait, en effet, et dans le monde entier. C'est une excellente nouvelle qu'on reparle d'Alfred Nakache. Et maintenant, une autre belle action sur fond de crise politique en Amérique du Sud cette fois-ci.
Oui, c'est ça. Alors en ce moment, ce n'est pas la joie au Venezuela, vous avez suivi. La guerre ouverte déclarée entre Nicolas Maduro et son opposant, le président par intérim autoproclamé Juan Guaido, contraint des dizaines de milliers de Vénézuéliens à l'exil. Eh bien, le club de foot du voisin colombien, l'Independiente Santa Fe, nonup le champion de Colombie, c'est pas n'importe qui, vient de décider d'offrir aux Vénézuéliens ayant réussi à passer la frontière un petit cadeau. Ce sont des places gratuites pour aller voir le prochain match qui opposera Santa Fe donc à celle de Junior. Santa Fe, en partenariat avec le maire de Bogota, ouvre cette saison ses portes aux Vénézuéliens qui ont dû quitter leur pays et qui vivent maintenant dans la capitale colombienne. Frère vénézuélien, votre nouvelle maison est la maison des lions. Alors les lions, c'est le surnom des joueurs du club de Santa Fe. Voilà ce qu'a fièrement tweeté l'Independiente. Je trouve que c'est un beau geste d'intégration des réfugiés en ces temps troublés. Bien joué Santa Fe.
Bien joué Santa Fe. Et sinon, peut-être qu'on a trouvé le véritable créateur de la série à succès Hunger Games et qu'il s'agirait donc d'un footballeur international.
Et ouais Dominique, et ouais, enfin peut-être. Dans un édito en fait au magazine Socrates, le footballeur espagnol Javi Martinez laisse entendre qu'en fait, si la saga Hunger Games existe, c'est possiblement grâce à lui.
Tiens donc.
Et oui, je vous lis ces mots. Quand j'avais 14 ou 15 ans, j'ai commencé à écrire un livre. Et croyez-le ou non, l'intrigue était presque exactement la même que celle de Hunger Games. Alors déjà presque exactement. J'ai regardé le film au cinéma et je me suis dit « Ah mais c'est pas possible, c'est mon idée depuis des années. Les réalisateurs ont dû voler mon ordinateur. » Alors je n'ai pas regardé le film jusqu'à la fin tellement j'étais énervée. Voilà. Donc non, le milieu de terrain du Bayern de Munich ne doute jamais de rien. Alors sur un terrain de foot c'est bien. Après,
ça peut être un peu excessif. Hein. Alors en matière sinon de véritable création, John, il y a en revanche un tout nouveau sport dont tu voudrais nous parler.
Colin, Dominique, j'ai trouvé un sport pour vous. Un sport pour les super-héros, les vrais. Pour les fans de cinéma qui plus est. Et aussi et surtout pour les fans de Star Wars, il s'agit du sabre laser, je vous jure. Parce que oui, le sabre laser, en fait, c'est un sport, je viens de l'apprendre. La Fédération Française d'Escrime organisait en effet la semaine passée à Beaumont-sur-Oise son deuxième tournoi national de sabre laser. Et alors il faut savoir que la France est pour le moment le seul pays où la fédération d'escrime, hein, donc qui comprend déjà l'épée, le fleuret et le sabre, a désormais intégré ce qu'elle appelle l'Académie de sabre laser. Non mais c'est un vrai sport, on rigole pas. On compte 1100 licenciés et 92 clubs dans l'Hexagone et la discipline voit vraiment croître chaque jour le nombre de ses adeptes. Alors il y a des règles strictes qui reprennent celles des autres armes. Le sabre laser, qu'Obi-Wan Kenobi appelait l'arme noble d'une époque civilisée, est une discipline en fait à mi-chemin entre l'escrime et la chorégraphie. Donc voilà, voici un sport qui pourrait bien séduire tous les Jedi qui s'ignorent. Que la force soit avec eux.
Très bien. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel du jour.
Soyons sport. Soyons sport, Colin. Et allez, on va à Lyon. On part mercredi prochain pour aller assister à la 6e édition du festival Sport, Littérature et Cinéma, le festival imaginé par Thierry Frémaux, avec cette année encore un programme plus qu'alléchant. Alors cette année, le festival honorera les 50 ans de la première victoire du Tour de France d'Eddy Merckx, en sa présence, s'il vous plaît.
Carrément.
Ouais. Rendra aussi hommage à la Ballon d'Or Ada Egerberg, dont on a beaucoup parlé, qui sera vraiment l'invitée d'honneur de la cérémonie d'ouverture.
Grande footballeuse norvégienne.
C'est ça.
Absolument.
C'est bien de le préciser.
C'est bien.
Et puis surtout, comme d'habitude, ce festival, c'est l'occasion d'assister à tout plein de colloques, de rencontres et de voir des films de dingue. Alors, je vous citerai pas tout, vous irez voir le programme. Mais sachez qu'il y aura, par exemple, Breaking Away de Peter Yates, dont je vous parlais ici il y a à peine quelques semaines. L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone. Ou alors, plus inattendu encore, Crossing Beyond, qui était le film officiel des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018. Voilà. Alors, go, faites vos jeux, allez-y, vous serez gagnant à tous les coups.
À tous les coups, soyons sport. C'est la 6e édition du festival Sport, Littérature et Cinéma à l'Institut Lumière de Lyon sous l'égide de Thierry Frémaux. C'est donc du 27 février au 2 mars prochain et à ne pas manquer si vous êtes dans les parages. Merci, joyeux à la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, cette 25e émission de notre saison 4 a été coachée ce soir par H2M, bien sûr, l'incontournable Marco Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Clément Berman. Puis merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine et à deux jours du match retour entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. On vous racontera une histoire du football, oui, une histoire différente dans cette ville ouvrière du nord de l'Angleterre. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.